Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Il y a quelques jours, la Redoute Intérieure m'a proposé de prendre les rênes de leurs réseaux sociaux le temps d'une journée presse. C'est là que j'ai pu rencontrer Marie Hermé-Noulet, qui est à la tête du bureau de style de la Redoute Intérieure. C'est elle et son équipe qui imaginent les meubles, les objets et les ambiances que vous allez repérer dans le prochain catalogue ou choper sur le site. Alors comment on travaille dans une si grande maison? La question me brûle les lèvres, donc ne perdons pas de temps. C'est parti, bonjour Marie.
Bonjour Hortense.
Alors je viens de le dire, tu diriges le bureau de style de la Redoute Intérieure. Concrètement, ça veut dire quoi? Quel est ton métier au quotidien?
Mon métier, en fait, c'est de travailler avec mes designers et les chefs de produits de la Redoute Intérieure afin de concevoir une collection de meublants, de luminaires, de tapis et de linge de maison.
Alors, comment vous imaginez ces collections? Quel est le point de départ?
Alors, le point de départ, en fait, nous avons une chance extraordinaire, c'est qu'on travaille depuis plusieurs années avec Elisabeth Le Riche, une tendanceuse que tu connais bien, qui, en fait, nous propose chaque année des histoires qui sont liées, en fait, à trois grands styles que nous avons déterminés pour la Redoute Intérieure. Alors, ces styles, on les communique pas forcément à nos clientes, mais pourtant, elles cadrent la collection. Et donc, Elisabeth nous propose donc des tendances avec des histoires qu'on va devoir interpréter, travailler pour une collection.
Mais Elisabeth, elle est assez pointue. Est-ce qu'elle rend son travail accessible pour
complètement.
Vous ou c'est vous qui retenez que ce qui vous pas semble le plus approprié?
Pas du tout. Justement, c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, Elisabeth, elle est multicarte. Elle est capable de travailler pour des grands noms de l'édition, mais aussi pour nous. Et je crois que ça l'amuse énormément. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde, à savoir qu'elle est complètement maintenant, elle connaît très bien la plateforme de marque et elle nous propose justement des histoires qui sont totalement accessibles et qu'on peut interpréter.
Et ensuite, alors comment vous travaillez? Quelles sont les étapes jusqu'à la mise en ligne ou la distribution des catalogues dans notre boîte aux lettres?
Alors, pour faire une collection, on commence un an et demi avant,
oui.
Avant le produit fini. Donc la première étape, j'en ai parlé, le travail d'Elisabeth qui nous propose donc les grandes tendances. À partir de cela, on travaille en workshop avec les chefs de produits qui nous montrent leurs différentes gammes, qui nous disent voilà, cette année j'ai besoin de renouveler 30% de ma collection selon des objectifs précis. Et donc par rapport à ça, on regarde les histoires et on définit ensemble, par style, par histoire, les nouveaux produits qui vont être proposés. Les designers travaillent sur des formes que nous validons aussi avec les chefs de produits. On envoie tout ça à nos fournisseurs qui font des prototypes. Les prototypes arrivent, ils sont validés par moi, par les designers, chefs de produits ainsi que l'équipe qualité. Une fois que c'est bon, ça part en production. Puis après, on travaille sur le catalogue pour pouvoir proposer les produits. Et donc voilà, un an et demi après, tout est fait.
D'accord. Mais est-ce que tous les produits imaginés sont commercialisés?
Non. Non, non, on ne peut pas en fait. Parce que finalement, en workshop, quand un chef de produit nous dit « je dois renouveler 30% de sa collection », ça peut très bien, par exemple, je ne sais pas, représenter, admettons, sur une catégorie, j'en sais rien, 10 ou 15 buffets. Nous, on a l'idée de 30 buffets. Donc dans le fond, il y a des dessins qui sont faits, certains sont réalisés en prototypage ou pas, et puis quand ils sont réalisés en prototypage, parfois on se rend compte que finalement, ce qu'on a imaginé, ça ne tient pas debout, ça ne rentre plus dans l'histoire et on laisse tomber.
Et combien vous produisez de nouveaux produits par an?
Alors en fait, moi je vais plutôt te parler en pourcentage, puisque en fait la collection, elle grandit au fur et à mesure des années, mais on a une collection annuelle, notamment sur le meublant et les luminaires, ça représente en moyenne 30% de renouvellement. Et puis on a deux collections pour le linge de lit notamment, et c'est une moyenne de 50% de renouvellement par saison.
D'accord. Et est-ce que vous imaginez, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, vous imaginez d'abord les produits et vous les accolez à des styles, ou vous pensez d'abord à des styles que vous souhaitez mettre en avant et vous créez les produits qui iraient avec?
En fait, c'est un peu les deux. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les styles nous sont proposés via les histoires, donc forcément, ça nous oriente vers un style. Et en fait, la démarche en workshop, elle est intéressante, c'est-à-dire que comme on renouvelle, entre
workshop,
guillemets...
Workshop, tu peux nous dire ce que...
Bah, un workshop, en fait, c'est vraiment un moment d'échange qui est important, c'est-à-dire qu'autour d'une table, on va retrouver les chefs de produits, leurs assistants, bien sûr, et puis les designers, et moi. Et donc...
Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, en fait.
Alors, on a quand même un objectif commun. Hein, c'est-à-dire le chiffre, ouais. On est quand même dans une boîte et voilà, avec un objectif bien sûr commercial. Et je dirais que si les objectifs se rejoignent, parce que de toute façon l'idée c'est de faire une gamme qui soit la plus belle possible, accessible, donc l'objectif est quand même commun. Et donc pendant par exemple une journée, par catégorie de produits, on va réfléchir ensemble à ce qu'on va pouvoir travailler de nouveau finalement. Et j'ai oublié le début de ta question.
Alors là, tu vas me coincer, je l'ai oublié aussi.
c'est
est-ce
quoi,
que
hein?
vous imaginez d'abord les produits,
ah, oui,
et
c'est
les
ça.
Styles, les styles et les produits.
C'est ça. Et donc oui, pour répondre à ta question, donc en fait, les styles, en effet, nous orientent vers certains produits. Et puis parfois, il y a, je dirais que plus qu'un produit, c'est la fonctionnalité d'un produit. Par exemple, on va se rendre compte qu'on est déficient sur des tables particulières avec des annonces. On n'en a pas assez, ça cartonne chez nous. Donc ce produit-là, finalement, on va en dessiner, on le sait, et puis on va après l'inscrire dans un certain style. Donc tu vois, en fait, les deux choses, finalement, elles ne sont pas décorrélées. Mmh. On doit quand même les travailler ensemble.
Alors la Redoute, c'est une grosse machine. Est-ce que toi, tu as 10 personnes au-dessus de toi qui doivent valider tes choix ou tu es assez libre ?
Alors moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est travailler pour la Redoute justement. Oui, la Redoute, c'est une vieille dame, une grosse machine, mais qui a pris un sursaut, enfin un élan de nouveauté il y a quelques années. Et non, moi, je suis très très libre dans mes choix, dans la façon de fonctionner. Bien évidemment, je dépends du service commercial, donc je dois faire en sorte que la collection, elle soit bien sûr commerciale, mais commerciale, ça ne veut pas dire faire du moche, au contraire. On doit justement essayer de faire du beau avec des prix accessibles, et je suis vraiment très libre, hein. Oui, c'est assez formidable.
T'as pas à te battre pour défendre un style auquel tu crois, ou un meuble qui pourrait être un peu en
décalage. Non, alors... Bien sûr, parfois, on pourrait se battre sur certains sujets parce que on sait très bien que parfois le commerce a du mal avec du style et inversement. Bon, il s'avère que c'est vraiment très rare qu'on soit obligé de se battre. Il y a une confiance qui s'est instaurée entre le commerce, donc les chefs de produits et le style, puisqu'ils savent très bien qu'on va dans le même sens qu'eux. En effet, moi j'en ai connu, et puis ça arrive tout le temps, que le style soit dénigré parce qu'il est fou, parce qu'il va proposer des choses complètement hallucinantes, beaucoup trop prospectives, et des commerciaux purs et durs qui disent « mais ça marchait comme ça depuis 10 ans et on va continuer ». Non, à la Redoute, c'est pas du tout comme ça. De toute façon, les risques sont toujours limités. Le principe du commerce du 80-20, on le connaît tous. C'est-à-dire qu'on va assurer 80% de nos chiffres, et puis il y a 20% qui vont nous permettre de tester des choses. Et c'est ce qu'on fait. Et finalement, en prenant cette liberté, en prenant ce risque mesuré de faire des nouvelles choses, on se rend compte que des nouvelles tendances apparaissent, que nos clients sont réceptifs, et ça nous permet du coup d'ouvrir sur d'autres marchés. Non, c'est vraiment... c'est extraordinaire de travailler comme ça.
Mais tu en parlais juste avant, comment vous faites pour créer des collections à la fois tendance et pas trop chères, justement pour, j'ai lu une interview où tu disais le beau ne doit pas être hors de prix, mais alors comment vous faites ?
Alors comment on fait ? Bah déjà, on travaille sur des matériaux qui eux-mêmes ne sont pas forcément dans les prix les plus hauts. Par exemple, je vais prendre une table. Nous avons des tables qui sont en massif, sauf qu'on peut très bien, par exemple, travailler sur un joli pain massif, ce qui permet finalement d'avoir une alternative au chêne. Et si on veut du chêne, on travaille par exemple sur du plaquage. Alors c'est du vrai chêne, mais ça nous permet justement de pouvoir avoir des prix qui sont beaucoup plus accessibles. Voilà, typiquement. Alors bien évidemment, par exemple sur le linge de lit, on a des gammes de lin lavé, et le lin lavé en effet, ça s'est quand même démocratisé, mais ça reste un peu cher. Pour autant, nous n'avons pas de lin lavé imprimé. On préfère travailler sur des matériaux qui sont tout aussi jolis, de la percale, du coton lavé, ce qui nous permet finalement d'avoir des prix qui sont beaucoup plus accessibles avec un dessin peut-être un peu plus pointu.
Alors, grande question Marie, quelles sont les tendances déco actuelles ?
Alors, les tendances déco actuelles, elles sont multiples et c'est ça qui est intéressant. On a quand même toujours la tendance de ce vintage ou 50 quand même toujours très très présent. Alors certaines stylistes diront oui, on en a marre de cette tendance, de ce scandinave vintage. Pour autant, je pense que la cliente, elle y est toujours parce que c'était quand même une époque, et on le voit, on l'a remis au goût du jour. Finalement, les lignes étaient bien tirées, elles étaient belles, il y avait des beaux matériaux. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Toute la tendance du naturel, le rotin, bien évidemment, il y a eu une déferlante. Et surtout, ça, avec les beaux jours qui arrivent, on a envie de ça, de tout ce côté nature, bois brut, tressage. Et en parlant du tressage, bien évidemment, le canage. Nous, on le voit bien dans nos collections, c'est un vrai carton. D'ailleurs, on a étiré le canage sur d'autres meubles. On a aussi travaillé des canages et des tressages différents. Mais cette tendance naturelle, elle est très, très forte.
Et en termes de couleurs ?
Les couleurs, on a toujours des coloris doux, hein, qui sont vraiment issus du Scandinave, que ce soit des roses poudrées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on les a vraiment associés à des coloris caramel, un peu tous ces coloris un peu roux qui viennent un peu réchauffer le rose. Le jaune est toujours très très présent, le jaune safran notamment, le jaune moutarde, hein, qui a fait une percée extraordinaire et qui est toujours présent. Et puis l'arrivée des coloris froids massifs sur le vert eucalyptus et le bleu de Prusse ou bleu de marine.
Et côté matière ?
Alors les côtés matières, ben justement sur le canage, toutes les matières naturelles, le bois brut, le chêne, que ce soit en plaquage ou en massif, très 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 présent. Et puis après, on a tout le lin. Le lin qui est vraiment d'actualité, que ce soit en linge de lit,
Et comment on explique cette percée du lin ? Tout le monde ne parle que de lin.
Alors, je pense déjà, percée du lin, parce que le lin s'est démocratisé. Avant, le lin, c'était vraiment réservé à une élite. Le lin a eu mauvaise presse. Je dirais pour la cliente un peu lambda, sans être du tout péjorative, hein. C'était cher, ça grattait. Et en fait, le lin s'est démocratisé avec le lin lavé. Tout d'un coup, il est devenu doux. Donc ça, je pense que d'un coup, il y a eu beaucoup moins de réticence sur ce produit. Comme forcément, on en a vendu de plus en plus, il est devenu moins cher. Et surtout, c'est qu'il a ce côté... Avant, le lin aussi, c'était à part les Italiens qui adoraient les costumes froissés. Le lin, c'était maintenant, mais c'est pas bien repassé, ça fait des plis. Et justement, maintenant, ce côté loose, très naturel, qui lui donne une vraie valeur naturelle, est vraiment devenu un axe de commercialisation. Donc, on a le lin de ce côté. En plus, on s'est rendu compte que le lin, c'est chaud l'hiver et c'est frais l'été. Donc, c'est vraiment un produit qu'on peut avoir toute l'année. Et après, l'autre matière, alors qu'il peut-être sera un petit peu moins d'actualité en termes de vente sur l'été, bien évidemment, mais c'est le velours, le gros carton du velours, tous les canapés en velours. Parce que l'intérêt du velours, c'est que c'est très facile d'entretien. Contrairement à ce qu'on peut croire, faites une tâche sur du velours, un velours de coton.
Ça fait presque luxueux comme matière.
Alors, c'est luxueux et en même temps, c'est extrêmement pratique. Et surtout, c'est que c'est assez ton profond, changeant. On peut vraiment s'amuser avec du velours. Et puis, bon... Vous allez voir dans les nouvelles collections, du coup, on a tiré le velours vers du velours côtelé. On va vraiment s'amuser avec cette matière.
Hyper tendance, le velours côtelé.
Très tendance, très, très, très tendance. Que ce soit un petit minerai ou une côte plus épaisse.
Alors, en parlant de style, il y a la photo qui est très importante, celle qui va aider à la vente du produit sur le site ou le catalogue. Comment vous travaillez autour de ça ? Alors, on crée une ambiance qui va être...
Alors, c'est un travail qui est très collaboratif. Et d'ailleurs, c'est ce que je voudrais souligner aussi dans mon travail. Tu vois, d'une façon générale, bon, peut-être que je te spoil un peu tes autres questions, mais il faut penser qu'à la Redoute Intérieure, c'est vraiment un travail qu'on fait ensemble. Tu vois, je te parle de chef de produit, je te parle de designer, je te parle de qualité. Donc, ça, sur la collection, c'est très important. Pour la photo, on travaille beaucoup avec le service de communication. Alors déjà, j'ai dans ma tête, en fait, toutes les images. C'est-à-dire que mon rôle, c'est quand même de la coordination de collection. Donc, à partir du moment où on commence les workshops autour des histoires, moi, je sais déjà très bien dans quelle histoire, quel lit, quel linge de lit, quel canapé, quelle table basse. Moi, je suis déjà en train de le construire, en fait. Et c'est ça, mon job, en fait, c'est de faire en sorte de créer déjà les ambiances. Donc, très clairement, quand on arrive au moment de mettre tout ça en scène, moi, je les ai déjà, en fait. Je sais déjà pourquoi j'ai conçu avec les équipes ce canapé. Je sais déjà très bien quelle table basse va aller avec. Après, pour alimenter tout ça, je fais énormément de piges pour trouver des ambiances, des angles de vue aussi. Et puis après, je travaille avec les équipes produits qui, eux, en fait, me remontent tous leurs desiderata. Je voudrais mettre en avant tel produit, telle nouveauté, etc. En sachant qu'on a déjà récupéré de la communication, le nombre de pages, la maquette. Donc, sur une double, tu as combien de photos, etc., etc. Donc, on a déjà un cadre. Et on a déjà travaillé en fait avec les chefs de groupe et le produit au nombre de pages qui est affilié à chaque histoire. Et donc, à partir du moment où on a ce cadre, moi, j'arrive avec mes piges, avec mes envies, etc. Et après, je dessine toutes les pages. Donc, voilà, tous les cadrages, je sais exactement quel coloris de mur, quelle association, etc. Ensuite, on le débriefe, en fait, aux équipes de communication. Avec eux, je travaille aussi, par exemple, sur quelle maison on va shooter, est-ce que c'est du studio, pas du studio, etc. Et après, ils font leur job, c'est-à-dire qu'en fait, les DA vont travailler avec des photographes, des stylistes plateaux, et ils font les shoots en fonction, finalement, de toutes les maquettes qu'on leur a données, tous les dessins. Et en sachant aussi qu'au préalable, moi, je fais toujours une présentation de toutes les histoires, pour parler, c'est quoi la lumière que j'ai envie d'avoir dans cette histoire, c'est quel type de maison, quel type d'ambiance, etc. Je fais une présentation à toute l'équipe de com interne, mais aussi externe, les photographes, etc. Parce que ces gens-là sont à l'extérieur, il faut vraiment qu'ils comprennent dans quelle ambiance on a envie de faire les choses. Et après, moi, je les laisse faire, et après, on a des retours d'images, et généralement, c'est super, quoi.
Alors, dans ton équipe, vous êtes combien ?
Alors, actuellement, dans mon équipe, j'ai 4 designers produits. Alors, ils sont tous designers produits, mais je dirais meublants, plus exactement. Et 3 designers textiles et une super assistante. À noter aussi que mes designers travaillent aussi pour AMPM.
Ah oui, j'allais justement t'en parler. Quelle est la différence entre La Redoute Intérieure et AMPM ? C'est la même maison, mais vous êtes deux marques bien différentes.
Alors, nous sommes deux marques complètement différentes et très complémentaires. Je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à nos deux marques, je pense que du coup, on peut plaire à l'ensemble de la population. AMPM, c'est une très belle marque, existe depuis 20 ans, et La Redoute Intérieure depuis 5 ans. AMPM, c'est vraiment une gamme qui a un niveau de gamme, un niveau de prix qui est plus élevé que La Redoute Intérieure et qui s'adresse finalement à une clientèle qui est plus pointue, qui connaît la déco, qui sait où elle va. Alors que La Redoute Intérieure, finalement, on s'adresse plus à des familles. Déjà, en plus, on accompagne, je pense, la famille dans son évolution, que ce soit l'étudiant, le jeune couple avec enfants, etc. Ce qui, bien sûr, pourrait être tout à fait le cas d'AMPM, mais finalement, le positionnement n'est pas tout à fait le même, parce qu'on est quand même sur une catégorie de clients qui a peut-être aussi un peu plus de moyens. Donc voilà, ça, c'est vraiment la grosse différence. Et puis aussi, la différence, c'est que AMPM va aborder des tendances peut-être plus pointues. Nous, parmi designers, se permettent de travailler pour AMPM sur des matériaux peut-être qui sont encore un petit peu niches. Ce qui ne va pas être le cas pour La Redoute Intérieure en termes de prix, puis même en termes de tendance, tout simplement. Les volumes ne sont pas les mêmes aussi. On est sur du plus gros volume en canapé, en lit, voilà, pour un MPM. Alors que nous, on peut aussi bien meubler un studio. On est vraiment sur des choses peut-être un peu plus malignes, entre guillemets.
Alors, chez La Redoute Intérieure, vos clients viennent chercher quoi ? Est-ce qu'il y a des bests, des choses qui sont vendues ?
Oui, alors on a des bests, bien sûr. Hein. Depuis 5 ans, on a réussi à avoir des bests. Oui, on a toute la gamme Jimmy, qui est une gamme scandinave, avec un prix totalement accessible, qui a permis d'ailleurs de démocratiser le scandinave. On a du meuble, on a du canapé. On a aussi le canapé Topim, avec ses petits pieds en laiton, avec du velours, qui est vraiment un de nos bests aussi. Puis toute la gamme Iba, qui est une gamme plutôt industrielle.
Donc vos clients viennent plutôt chercher des meubles ou du linge dont tu parlais ?
Alors en fait, ils viennent chercher les deux. Oui. En fait, ils viennent chercher de quoi meubler leur intérieur et nous, on peut tout proposer. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. Traditionnellement, La Redoute a toujours vendu beaucoup de linge de lit. C'était moins le cas sur les meubles blancs, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait vraiment développé. On avait finalement une offre qui était plutôt basique, assez fonctionnelle ou très traditionnelle. On a voulu ouvrir enfin, justement le débat pour permettre que tous les styles soient exprimés, enfin tous les styles, en tout cas que beaucoup de styles soient exprimés. Et ils viennent chercher les deux, c'est-à-dire que chez nous, l'intérêt, c'est qu'ils peuvent trouver le lit, mais le linge de lit qui va avec. Ils viennent chercher le canapé, la table basse, le tapis, l'objet déco, le luminaire. Par exemple, on fait des tables, mais depuis peu, on fait de la vaisselle et ça marche très très bien. Voilà, c'est-à-dire que finalement, on peut proposer une déco complète.
Et justement, il y a quelques années encore, si je peux me permettre, La Redoute n'était pas autant regardée qu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment un acteur important. Comment ça a basculé ? J'ai l'impression que c'est peut-être depuis que la marque La Redoute Intérieure a été créée.
Ah oui, certainement. Je pense que ça a joué. La marque La Redoute Intérieure a été créée il y a 5 ans. Parce qu'avant, finalement, La Redoute Maison, c'était inclus dans La Redoute, d'une façon générale. On faisait du linge de lit, on a toujours été renommé pour ça. Et le reste, c'était La Redoute Maison, d'une façon finalement très globale. Et on s'est dit que pour vraiment appuyer cette offre maison, il fallait vraiment qu'on ait une marque. Donc en fait, on a créé la Redoute Intérieure avec un S à l'intérieur. Ça a son importance puisqu'on propose plusieurs styles. On n'est pas monostyle à la Redoute Intérieure. Et c'est vrai que l'idée même d'avoir une marque, ça nous a permis vraiment de nous exprimer et de proposer une offre qui est cohérente. Et donc je pense que c'est ça qui fait que tout d'un coup, cette marque commence à être connue.
Est-ce qu'en termes de tendance, il y a des passerelles avec la mode, avec la Redoute ?
C'est une question qui est difficile parce que je crois fondamentalement, on ne se meuble pas comme on s'habille et inversement. Il y a des gens qui sont tout à fait hype et chez eux qui vont être tout à fait traditionnels et inversement. Pour autant, il y a des goûts qui peuvent être communs. Ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai fait des tendances de mode et de maison pendant des années, mais il y a plusieurs années. Et je voyais bien qu'il y avait toujours un temps d'avance sur la mode et que 2 ans après, cette tendance mode, elle arrivait sur la maison. C'est devenu de plus en plus court. C'est intéressant d'ailleurs de voir que même la maison maintenant influence la mode. Je ne dirais pas que les choses se sont totalement inversées parce que ce n'est pas vrai, mais il y a des passerelles qui sont très très fortes. Typiquement, quand les coloris pastels sont arrivés dans la mode, très vite, dans la maison, c'est apparu aussi. Et ça, c'est tout à fait étonnant. Là où il y avait vraiment la maison prenait son temps, on est dans une réactivité absolument incroyable. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des passerelles entre le prêt-à-porter, la Redoute et le meublant, enfin la maison, la Redoute Intérieure? Il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire qu'on travaille pas. Déjà, on n'est pas du tout sur les mêmes temps de création. Eux, ils sont vraiment sur des temps beaucoup plus courts. Nous, on prend un peu plus de temps, parce que pour développer nos produits, on a besoin de plus de temps. Mais nous, l'idée, c'est vraiment, en effet, demain, de pouvoir proposer un lifestyle complet à nos clients. Parce que là, du coup, on habille les gens, on les meubles. Enfin, c'est incroyable. Et puis, après, il y a quand même des tendances qui sont bien sûr communes. Hein. Tout ce qui est bobo chic, etc., on y est aussi. Bien évidemment, il y a des passerelles qui se font.
Ça fait longtemps que tu travailles chez La Redoute ?
Ben, ça va faire 8 ans. Alors j'ai l'impression que c'est loin et en même temps, j'ai pas vu le temps passer.
Et qu'est-ce que tu faisais avant ?
Alors avant, j'ai eu plein de vies. J'étais chez Castorama, encore avant chez Itens. Avant, j'ai fait des tendances de mode et de maison pour le salon Indigo, qui est le salon du dessin textile. Et avant, j'étais graphiste et je travaillais pour l'édition et pour toutes les expos temporaires de La Villette.
Oh, plusieurs vies, mais c'est cohérent, c'est dans le monde lifestyle et de la maison.
Oui, alors enfin, le graphisme, finalement pas tant, puisque finalement, ok, il y avait La Villette, mais il y avait aussi beaucoup l'édition. Et, mais en fait, je me rends compte que ça m'a servi, parce que quand j'ai repris des études finalement textiles, le fait de travailler les pleins et les vides, en fait, ça m'a servi pour faire les raccords de textiles. En fait, tout me sert, je me rends compte, tout a été complémentaire.
Est-ce que tes goûts pro et perso sont liés? Ou est-ce que pour La Redoute, parfois, tu dois imaginer des meubles ou des collections qu'au fond, tu cautionnes pas vraiment?
Alors, moi, je dirais pas que je cautionne pas vraiment, parce que je cautionne tout, très clairement. Et c'est pas une histoire de goût personnel. Premièrement, je crois qu'on ne fait pas une collection pour soi. Ça n'a pas de sens. On a plein de clients différents et qui recherchent tous des choses différentes. Donc, on ne fait pas une collection pour soi. Après, bien évidemment, oui, il y a des produits que j'adore parce que d'une façon personnelle, oui, je suis très contente de les avoir après chez moi. Mais bien évidemment, il y a des gammes, je ne suis pas forcément fan, et ça me parle moins, mais je sais très bien que ce sont des vrais cartons, et c'est ce qui va plaire. Ça, c'est quand même... attention, moi, si jamais je commençais à me dire ça, j'aime pas, je ne pourrais pas être styliste intégrée dans une boîte pour défendre une marque, il faudrait que je sois à mon compte.
C'est vrai. Alors, pour imaginer encore mieux tes journées, on va inventer une semaine type avec des créneaux. Que fais-tu le lundi à 9h?
Alors, le lundi à 9h, ça fait déjà à peu près une heure que je suis au travail.
C'est bien.
Voilà. Moi, j'aime bien commencer tôt. En fait, moi qui n'étais pas du tout une lève-tôt, je le suis devenue. Parce que, en fait, ça me permet, pendant à 9h, j'ai déjà épuré mes mails. Et ça me permet voilà, de commencer ma journée en me disant, ça c'est fait.
Le mardi à 15h?
Alors, le mardi à 15h, alors attention, ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas de journée type en fait, hein, dans l'absolu, mais très souvent je suis en réunion.
Le mercredi à midi?
Alors le mercredi à midi, généralement on vient de finir la cordo avec...
C'est quoi la cordo?
Alors la cordo, c'est un moment toutes les semaines, on se voit avec les différents chefs de groupe et avec notre boss, Sandrine, et ça nous permet de parler de la semaine, de parler de toutes les opérations en cours, voilà, de tout ce qui va se passer. Et généralement à midi, on est très content, on a fait le point, et souvent on va manger.
Le jeudi à 19h?
19h, c'est à peu près l'heure à laquelle je m'en vais, ou pas, parfois ça peut être 20h, mais enfin souvent c'est 19h. Et généralement, voilà, je sors du boulot, je prends ma voiture, et là c'est mon autre journée qui commence, à savoir mes enfants.
Le vendredi à 14h?
Alors, le vendredi à 14h, on se dit c'est déjà bientôt le week-end. Bon, très souvent, je suis encore en réunion, mais ça me permet, alors c'est souvent aussi des réunions avec mes designers, ça me permet un peu de clore, de faire le bilan de la semaine, savoir où on en est.
Alors, c'est un métier qui a l'air assez plaisant à première vue. Est-ce qu'il y a un revers de la médaille, une difficulté ?
Non, il n'y en a pas. Réellement, je ne vois pas ce qui pourrait être déplaisant dans ce travail. Le revers de la médaille, ça pourrait que, bien évidemment, en tant que salarié, j'ai des obligations de rentabilité. De temps en temps, il faut être à l'objectif. Parfois, oui, je fais des choses.
Oui, tu dois être créative, mais tu dois répondre.
Toujours.
Oui, c'est ça.
Toujours.
C'est ce qu'on te fixe.
Voilà. Donc ça, je dirais que parfois, ça peut être en effet un peu pesant parce que du coup, on est en challengé en permanence. Et on doit faire le SAV de tout, hein. C'est-à-dire ça, c'est un peu compliqué. Mais sinon, il n'y a pas de revers de la médaille. Enfin, je veux dire, c'est quand même un boulot incroyable.
Est-ce qu'il y a un meuble ou une collection chouchoute que tu as parmi tout le travail que tu as pu faire chez La Redoute ?
Ah oui, alors j'ai une collection chouchoute, bien évidemment. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a une que j'adore forcément, c'est la collection Waska qui est en canage, qu'on a sorti l'an dernier, qui est un vrai carton. Je trouve que les formes, elles sont simples, elles sont évidentes. Je trouve que la qualité est absolument au rendez-vous et on a étiré la gamme sur d'autres produits. Donc j'adore vraiment ce produit parce que je trouve que ça allie tout ce que j'aime, c'est-à-dire une espèce de nostalgie, quelque chose de connu comme le canage, finalement, qui est très vieux, hein, quand on réfléchit bien en termes de style, mais associé à des formes très contemporaines.
Qu'est-ce qui peut avoir un effet waouh dans une pièce ? Un meuble ou un objet ou une couleur, une matière, quelque chose qu'on pourrait mettre et tout de suite, ça donne le ton.
Moi, je crois déjà un beau canapé. Un canapé, je pense que ça fait déjà ton salon. C'est une couleur, une forme. Ça peut être l'effet waouh. Après, je pense un très beau miroir et un très beau luminaire. Très clairement, tu as ces trois pièces. Après, tu peux avoir une palette pour faire ta table basse. Tu peux avoir un tapis en jute. Déjà, tu as ça. Je pense que c'est super. Et après, tu as toutes les choses. Tu vas accessoiriser, mais l'effet waouh, il est là. Imaginons que tu aies, une super suspension. Voilà.
Ça fait tout.
Ah oui.
Est-ce que tu es meublée 100% La Redoute intérieure ?
Alors, je ne suis pas du tout meublée 100% La Redoute intérieure. Je mentirais parce qu'en plus, je pense que... Moi, ce que j'aime, c'est mixer. Mais par contre, je reconnais, j'ai du AMPM, parce que c'est une très belle marque, et puis c'est La Redoute. Et oui, après, j'ai beaucoup de choses à La Redoute intérieure.
C'est comment chez toi ?
Alors, chez moi, c'est vraiment un mélange. Pendant très longtemps, c'était un peu n'importe quoi. Et tout le monde me disait, ça doit être formidable chez toi. Je disais, en fait, pas du tout, ce sont les cordonniers les moins bien chaussés. Alors, il reste encore des choses totalement improbables. Mais chez moi, c'est un mélange. J'ai beaucoup de... Par exemple, j'ai des très vieux meubles qui viennent de chez mes grands-parents. Donc, avec des tops en marbre. J'ai des meubles des années 50, chinés, que j'ai depuis très longtemps, depuis 25 ans. J'ai une collection de petites cartes postales extraordinaires, un message des années 20. Je viens récemment de tapisser avec le papier peint William Morris chez moi. Donc il y a quand même quelque chose d'un petit peu suranné. Et puis à côté de ça, j'ai quand même une table en noyer, très très bien dessinée de La Redoute intérieure, avec des chaises en velours très contemporaines. Voilà. J'aime mixer. Donc je ne sais pas comment c'est chez moi. Tout le monde me dit que c'est très personnel. Bon ben voilà.
Ouais. Et quel est ton univers ? Qu'est-ce qui t'inspire ?
Alors, ce qui m'inspire, moi j'ai...
En pro et perso, du coup.
Moi j'ai été élevée par des parents qui ont toujours aimé les belles choses, les choses anciennes. Quand j'étais enfant, je râlais, ils nous trimballaient dans toutes les brocantes du coin. Puis finalement, je suis très contente parce que j'ai pris le pli dans beaucoup d'expos. Et du coup, ça m'inspire quand même, toujours les brocantes, les vieilles choses. J'adore aller aux puces, parce que finalement, on y trouve beaucoup d'objets de designer aussi, enfin des choses qui, à l'époque, n'étaient pas considérées comme des objets cultes. Mais quand on voit, par exemple, des Saarinen, quand on voit des meubles Pollock, quand on voit tout ça, moi, ça me fascine de me dire, justement, ça a traversé le temps. Quand je vois les canapés de Paulin, enfin, moi, ça m'éblouit, parce qu'on est aussi, on est un peu proche de l'art aussi. Et ça, moi, ça me plaît. Après, moi, j'ai pas d'univers particulier. Oui, mais j'aime autant, par exemple, une marque comme Line Roset que, finalement, que Caravane, que Maison de Vacances, que ces gens-là, finalement. Moi, ce que j'aime, c'est mixer les univers, finalement.
Et le fait de voir constamment de nouvelles inspirations te donne envie de changer régulièrement ta déco ?
Alors en fait, c'est hyper frustrant.
Ouais.
Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant des années, c'était un peu n'importe quoi. Parce que finalement, à peine, j'avais réussi à me convaincre, en tout cas, qu'il fallait que j'achète, je sais pas, tel meuble parce que c'était juste génial. Finalement, je commençais une nouvelle collection, je disais, ah, non, je n'ai plus du tout envie. Puis en plus, le fait de travailler presque un an et demi sur une collection, en fait, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus de la couleur, on n'en peut plus de la matière, on n'en peut plus de la forme. Et donc finalement... Ouais, finalement, c'est... Après, il faut choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je renonce à certaines choses. Et puis, parce que... voilà, c'est comme ça. Oui, mais bien évidemment, c'est hyper frustrant. On est en train de travailler sur une nouvelle collection, on a envie que d'une chose, c'est d'avoir cette nouveauté.
Oui.
Bien sûr, mais moi, on ne peut pas. Je n'ai pas deux maisons, mais il faudrait que j'ai pas deux maisons, trois appartements, ça serait formidable. Mais bon, je n'en suis pas encore là.
Quelle est la pire faute de goût, selon toi ?
Pour moi, il n'y a pas de faute de goût. Alors, je dirais peut-être le total look. Allez, le total look. Mais il n'y a pas de faute de goût.
Et même le total look, c'est-à-dire ?
Bah, le total look, ce serait de tout bien faire coordonner. Mais je dirais que ça, à la limite...
En termes de couleur ?
En termes de couleur.
De style de meuble ?
Bah, de style de meuble. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est j'ai acheté le lit qui va avec ma table de chevet, qui va avec mon armoire, qui va avec ma penderie. Voilà. Mais après, et en même temps, est-ce que c'est une faute de goût ? Enfin, moi, je crois qu'il n'y a pas de faute de goût. Je crois qu'on a tous nos goûts. Et de toute façon... Le bon goût de l'un et le mauvais goût de l'autre, voilà. Je crois qu'il n'y a pas de faute de goût, en fait.
Quel est l'objet déco le plus précieux que tu as pu avoir ?
Ah bah écoute, c'est pas compliqué. C'est une carafe et des verres Saint-Louis qui datent des années 40, qui me viennent de mes grands-parents et que j'ai eu presque intact, puisque sur les 8 verres à pied qui sont sublimes, il y en avait 7 et mon imbécile de chat en a déjà cassé 2. J'étais dans un désespoir total et au bout d'un moment je me suis dit bah c'est comme ça donc je vais essayer de les faire réparer mais rien n'est moins sûr. Mais voilà, c'est ce que j'ai de plus précieux, je pense.
Quel est ton dernier achat déco ?
Alors mon dernier achat déco, c'est mon papier peint William Morris. Mais juste avant ça, c'était la suspension Mauricio de la Redoute intérieure.
Et est-ce qu'il y a un objet ou un meuble dont tu rêves ?
Ah bah oui, oui bien évidemment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, si je pouvais avoir des chaises Werner, la longue chaire de Ims par exemple. Oui, il y a des objets comme ça, iconiques, oui, que je rêverais d'avoir bien évidemment. Après, il y a quand même une suspension absolument iconique que j'adore, qui est quand même la Vertigo. De Constance Guisset pour Petite Friture et mes amis pour mon anniversaire m'ont fait le grand bonheur de me l'offrir et je l'adore.
Ouais. Est-ce que tu as un mantra ?
Alors, le mantra de mon enfant, c'est « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Ma mère me disait ça en permanence, donc c'est un peu violent, mais en tout cas, ça a le mérite de ne pas s'apitoyer, de toujours aller de l'avant. Et mon mantra, c'est en effet de regarder le passé parce que finalement, il peut enrichir votre avenir, mais en tout cas, jamais s'y attarder. Je pense que moi, je suis toujours orientée vers l'avenir.
Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill.
Oui.
La Redoute, donc ta société, est installée à Roubaix.
Oui.
Mais souvent, on dit que les tendances, c'est plutôt à Paris que ça se passe.
Oui.
Alors, Paris ou Roubaix ?
Alors là, tu me poses... Ça va être compliqué pour moi parce que moi, je suis parisienne de naissance. Donc, là, c'est compliqué. Mais je suis devenue nordiste de cœur. Donc, moi, je dirais quand même Roubaix, du coup. Bah oui.
Si je te dis « espèce et bourbousse », tu sais ce que ça signifie ?
Ah non, ah oui, non, mais tu l'as... Oui, bourbousse, non, c'est boubourse.
Ah, je recommence alors. « Espèce et bourbousse » ?
Non.
« Espèce et bourbousse » ?
Non, tu sais pas bien dire. Attends. « Espèce et boubourse ».
Alors, ça veut dire quoi ?
Bah, ça veut dire espèce de babache, ça veut dire...
Espèce d'idiot ?
Bah oui.
Voilà, c'est ce qu'on dit à tous les gens qui se moquent des gens du Nord, justement.
Bah oui, faut pas s'en moquer. Écoute-moi, c'est pas compliqué, je suis parisienne, comme je te disais, de naissance. Je suis arrivée pour mes études textiles dans le Nord et moi, je suis tombée amoureuse du Nord. C'est-à-dire toute ma famille vit ici et très souvent, même mes amis me disent « Tu reviens quand à Paris ?» J'ai dit « Non, mais attendez, je pense que c'est même pas le sujet, en fait. » J'ai trouvé une famille là-bas, franchement, ben, des gens extraordinaires. Je trouve que la chanson d'Enrico Macias, qui est tellement cliché, tu sais, les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'a pas dehors, mais en fait, elle est vraie.
Merci beaucoup, Marie.
Mais merci, Hortense, pour cet échange.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.